un podcast France Culture.
Les dessous de la mode, une industrie de tous les dangers pour la planète, entre pollution industrielle, scandale environnemental et social, le monde de la mode s'affiche plutôt en sombre, à quelques exceptions près, sur le tableau des secteurs les plus impactants pour la planète et ses habitants. Aussi, en cette époque où les saisons de collection tendent à disparaître, au profit d'un renouvellement quasi permanent qui génère une surproduction et une surconsommation mondiale, eh bien nous avons choisi d'ouvrir le dossier noir de la mode et de regarder aussi du côté d'initiatives vertueuses qui tentent de proposer des alternatives plus durables. Avec nous pour en parler, Audrey Millet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancienne styliste, docteur en histoire et chercheuse à l'université d'Oslo, autrice notamment du livre « Le livre noir de la mode » paru aux éditions Les Pérégrines et le dernier sorti s'intitule « Les dessous du maillot de bain ». Bérangère Weiss, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes documentaliste, autrice du livre « Quand la planète n'aura plus rien à se mettre », un livre paru chez Delachaux et Niestlé. Et avec nous en distanciel, Nicolas Rohr, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'un des fondateurs de la marque française de mode Fagot. Et puis je précise que dans l'œil du monde planète, la journaliste correspondante du quotidien Le Monde, Anne-Françoise Hiver, sera des nôtres et nous racontera comment en Suède, de vieux vêtements sont transformés en cellulose. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture, préparé par l'équipe au complet Anaï Morales avec l'appui de Vanessa Chang, les équipes de documentation de Radio France, émission toujours réalisée par Alexandra Malka avec à la technique Jean-Guy Lamège.
Tous les styles, toutes les coupes, dans une surabondance de couleurs et de tailles.
Je trouve que ça se renouvelle assez souvent, oui, et ça incite à acheter.
On est toujours attiré par la nouveauté, on a toujours envie de changer, du coup il y a plein de choses qui s'accumulent dans le placard.
Le revers de cette consommation effrénée, des dégâts pour l'environnement. En 15 ans, la production mondiale de vêtements a doublé, elle utilise 4% de l'eau potable. Selon une association de défense de l'environnement, pour fabriquer un t-shirt, on consomme l'équivalent de 70 douches, 285 douches pour un jean. Une production qui alimente aussi le réchauffement climatique. Elle dégage 1,2 milliard de tonnes de CO2 chaque année, plus que les transports aériens et maritimes mondiaux additionnés.
Si on continue dans cette tendance d'acheter de plus en plus, on voit qu'en 2050, d'après les projections, on sera à 25% de gaz à effet de serre issus du secteur textile. Donc c'est tout juste insoutenable.
Reportage diffusé sur France 2 le 8 février 2019. Audrey Millet, je me tourne vers vous. Vous dites dès le début de votre livre que le consommateur doit savoir que ce sont toutes les étapes de la mode qui sont malades. Et vous revendiquez le fait que votre livre est un appel du pied aux industriels. Alors je me suis dit, est-ce que depuis la sortie du livre, vous avez eu des retours quand même ?
Des retours d'industriels ?
Pourquoi pas ?
Pas trop, hein, quand même. Tous les industriels sont d'accord pour dire qu'ils font des efforts, qu'ils sont en train de réfléchir, qu'ils essaient de modifier les choses, qu'il y a de nombreuses étapes. Et c'est vrai que quand on est une grande entreprise, c'est difficile de tout modifier. Ensuite, on en attend un petit peu plus et il y a des petites choses simples à faire, par exemple juste les colorants. L'échanger avec des colorants bio, des colorants naturels et arrêter tous ces colorants toxiques avec une petite pointe d'arsenic.
On va en parler de ces pollutions précisément dans l'émission. Mais auparavant, essayons de comprendre peut-être aussi en introduction, quand on parle de la mode et qu'on désigne justement ce secteur comme l'un des secteurs les plus pollueurs au monde, on parle de quoi ? Donc on a entendu dans le reportage les émissions de gaz à effet de serre, donc les produits chimiques, Bérangère Weiss, on peut donner peut-être un aperçu. 100 milliards de vêtements, je crois, produits chaque année dans le monde.
Oui, tout à fait. Un quart des produits chimiques de synthèse utilisés par l'industrie de la mode. Je crois qu'on en est environ à quasiment 100 milliards de mètres cubes d'eau utilisés par an.
Alors, on dit souvent que c'est le deuxième secteur le plus polluant. Difficile hein, quand même d'avoir des données, peut-être d'ailleurs à l'échelle mondiale. Certains pays ne doivent peut-être pas tout fournir non plus.
Je crois qu'on est tout à fait d'accord avec Bérangère. En fait, il n'y a pas de podium pour la pollution. Il n'y a pas une médaille d'or du plus grand pollueur. La médaille de bronze, il s'en sortirait bien. Non. Et il faut bien se rendre compte que peut-être il est temps d'élargir cette notion d'environnement et de prendre en compte, bien entendu, les forêts, les eaux, nous sommes tout à fait d'accord, mais également un environnement de travail. Tous ces gens qui sont extrêmement mal payés, notre corps humain, qui est notre premier environnement, notre corps à nous, et peut-être aussi une pollution mentale, une pollution de l'esprit.
Une surconsommation qui a vu les achats de vêtements doubler en 15 ans. Lutte contre ce système mis en place, on voit des initiatives. Nicolas Rohr, cette initiative avec Fago, vous la suivez, c'est le Make Friday Green Again, donc pour lutter contre le Black Friday. Ça a été créé en 2019, je crois, et ça rassemble plus de 1300 marques. J'ai peut-être pas les bons chiffres, hein, dites-moi, mais vous, concrètement, vous entrez dans un système où vous dites non, ça suffit, plus de Black Friday et la fast fashion, il faut lutter contre.
Oui, tout à fait. Quand on a créé ce collectif Make Friday Green Again, qui a rassemblé plus de 1000 marques de mode, l'idée était de dire aussi fort que nous ne ferons pas ce Black Friday que les gens qui le font. C'est parti du constat que 68% des vêtements des Français n'ont pas été portés au cours des 12 derniers mois. Et ce constat, il est terrifiant. Et du coup, on veut limiter les journées où on nous dit d'acheter sans raisonnement ou plutôt sans besoin réel. Et c'est juste parce que c'est la journée où il faut acheter. Et on est content de voir que, grâce à ce travail que l'on mène, 15% des consommateurs se disent maintenant opposés au Black Friday, c'est deux fois plus qu'en 2019. C'est-à-dire les débuts, lorsque j'ai créé avec toute l'équipe Make Friday Green Again. Donc en fait, on aide, grâce à ce collectif, à une meilleure compréhension des enjeux. Le problème n'est pas de s'habiller, c'est comment on s'habille. Et du coup, je vais m'habiller quand j'en ai des besoins. Un besoin réel, c'est il se met à faire froid, je vais peut-être renouveler mon manteau parce que mon ancien manteau, que j'ai déjà réparé deux fois, n'est plus bon et du coup je vais le mettre en seconde main. En fait, c'est réellement revenir dans le besoin.
Nicolas Rohr, pas facile quand même, on imagine, de se mettre dans cette dynamique-là de lutte contre le Black Friday, de la fast fashion, parce qu'on est vraiment dans une mécanique bien rodée, hein, le toujours plus, et on a le sentiment qu'il n'y a plus de saison en fait, de collection automne-hiver, printemps-été. Est-ce que vous en avez encore ?
Oui, alors... On voit quand même que malgré le dérèglement climatique qui gomme un peu ces saisons et qui est, je pense, le point d'alerte qui nous fait dire qu'il y a un problème et que chacun est responsable et à ma hauteur, c'est ma contribution en tant que marque de mode. On se dit aujourd'hui que malgré tout, il y a encore des saisons. Automne, hiver, printemps, été chez Fago, on n'a que deux saisons. En fait, nous, on les marque ces saisons par la livraison de nos magasins multimarques qui ont besoin de ces temps-là. Et en revanche, ce qu'on veut gommer, c'est l'effet nouveauté au maximum. Et c'est pour ça que chez Fago, nous avons 40% de nos références qui sont reconduites saison après saison. L'idée étant, évidemment, de faire évoluer certains coloris, mais qu'on ait une grosse base, donc ces 40%, qui invite pas à se dire dès qu'on passe devant chez Fago, ah, c'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau, et du coup, déclencher un besoin de nouveauté chez nos consommateurs.
Bérangère Weiss, est-ce que les soldes ont encore une raison d'être, finalement, même s'il y a ces initiatives que l'on entend par la voix de Nicolas Rohr, mais on voit bien que les saisons sont bannies, le renouvellement, c'est peut-être quoi, toutes les semaines ou toutes les deux?
C'est 52 semaines, une fois par semaine, 52 saisons par an, tout est normal.
C'est ce qu'on est en train de vivre.
C'est le changement climatique pour moi.
Bérangère Weiss.
Alors, je vais parler particulièrement de fast fashion. C'est un business model qui marche très bien parce que déjà, il apporte beaucoup de nouveautés et on a tous un attrait pour la nouveauté. Il apporte également de la rareté puisque les collections sont vite remplacées. Et ça, l'attrait pour la nouveauté, c'est quelque chose qu'on a depuis presque un siècle, depuis qu'on a développé le consumérisme à grands coups de publicité. Donc, on nage dedans sans même s'en rendre compte la plupart du temps. Voilà, donc avec la fast fashion, on en est au paroxysme du consumérisme. Et justement, ces soldes et ces renouvellements très rapides de collection créent une pression temporelle sur le client qui induit un léger stress. Et quand on stresse, d'une part, on est beaucoup plus impulsif, on est très réactif aux couleurs, par exemple la couleur rouge qui représente une grosse démarque. Et en plus, on ressent le besoin de calmer ce stress. Et comme vous en avez parlé là, pendant d'autres émissions, eh bien, quand on achète, notre cerveau nous administre un petit peu de dopamine qui fait beaucoup de bien.
C'est ça. Oui, c'était une émission avec Sébastien Boller, notamment sur comment notre cerveau fonctionne et comment est-ce que la dopamine, notamment, joue un rôle pour nous inciter à toujours plus, toujours plus, toujours plus. Audrey Millet, on voit quand même, ce qui est intéressant, c'est que les défilés des grandes maisons donc continuent. Mais est-ce que ça a encore un sens? Et vous donnez à comprendre dans votre livre aussi que ce luxe, il a lui-même réagi, ou en tout cas, on sent qu'il est mis à mal par les nouvelles habitudes de consommation. Vous parlez de Karl Lagerfeld, je crois, en 2015, qui disait « il n'y a plus de mode, rien que des vêtements ». Et vous nous expliquez que Jean-Paul Gaultier s'est retiré en 2020 fatigué du système qui est effréné et qui ressemble plus du tout à ce qu'on devrait vivre normalement dans cet univers de mode.
Oui, alors je crois que c'est là justement qu'on peut rediscuter la fast fashion. Ça veut dire mode rapide. Ça ne veut pas dire prêt-à-porter, ça ne veut pas dire luxe. Et quand on regarde les grandes marques de luxe, alors je vais citer Dior, Bottega Veneta, Gucci. Vous vous rendez compte que le luxe, c'est de la fast fashion. Il y a énormément de collaborations. Le cuir, par exemple, des sacs à main est de plus en plus lisse, de plus en plus fin, de plus en plus plastique. Donc on est véritablement dans cette dynamique d'un changement perpétuel. Finalement, il n'y a plus de tendance. Il n'y a pas une tendance tous les lundis. Ça se saurait si les stylistes étaient des génies pour trouver la super idée absolument géniale le lundi. La tendance est morte, le changement perpétuel de votre dressing est totalement là et atteint votre porte-monnaie aussi.
Nicolas Rohr, qu'est-ce qui vous a donné envie avec Frédéric Munier de créer cette entreprise avec ces ambitions-là dès le départ ?
Quand on avait 22 ans, c'était à ce moment-là que, étudiant en école, on se dit qu'on veut créer notre marque de basket. Parce que la basket est l'emblème de notre génération, c'est la chaussure qu'on porte tous les jours, symbole de liberté. Et on se disait en même temps, c'est étonnant, mais tout le monde porte les mêmes marques, donc on se suit tous comme un troupeau. Et pour autant, on ne va pas chercher derrière la marque ce qu'elle fait de bien pour notre planète. Et donc, en creusant un peu, on s'est aperçu que c'était quand même assez flou et que finalement, il n'y avait pas grand-chose. Et donc nous, notre prisme de base, c'était de se dire... Une paire de baskets, lors de sa production, lors de, du fait qu'on la porte, va émettre du CO2. Le CO2 étant la principale cause du dérèglement climatique, et bien on va agir contre ça, et on va partir en combat contre les émissions de CO2, en faisant, pour la première fois en France, un bilan carbone prévisionnel. C'est-à-dire qu'avant même de créer Fago, on s'est mis à enquêter sur nos émissions de CO2 pour comprendre, entre les matières premières, le transport, la fabrication, nos bureaux, mon petit ordinateur. Et donc, du haut de mes 23 ans, je découvre le milieu carbone de la mode. Et... À partir de là, je me suis attaché à faire deux choses depuis 13 ans. C'est réduire au maximum ses émissions de CO2. Tout ce qu'on peut, on le réduit. Et enfin, ce qu'on ne peut pas réduire aujourd'hui, parce que soit on n'y arrive pas à cause des limites du progrès, soit parce qu'on n'est pas encore assez doué, on compense par la plantation d'un arbre en France. Et aujourd'hui, on a atteint 4 millions d'arbres plantés. Et les réductions des émissions de CO2, comment on les suit ? C'est par des plans triennales, donc tous les 3 ans, on calcule notre bilan carbone, on constate nos évolutions, nos échecs, et puis on se donne des nouveaux points pour évoluer.
Et alors, c'est la première entreprise française de mode à mission depuis 2020 et qui a obtenu le certificat B Corp en 2021. Vous pouvez peut-être nous en dire un tout petit peu plus sur ce certificat ?
Oui, alors B Corp, c'est un certificat américain qui recense quelques belles entreprises, comme notamment Patagonia, qui est un peu le phare au milieu de cette nuit noire. Et du coup, le B Corp va scanner à 360 degrés la boîte, donc sur la partie sociale, environnementale, nos fournisseurs, nos clients. Vraiment, toute la boîte est scannée avec des questions auxquelles on répond. Et en fonction de nos réponses, on a un nombre de points. Et il faut un certain nombre de points, donc 80 points pour être certifié B Corp. Chez Fago, nous avons 84 points. Patagonia en est à 100 points. Et la moyenne du secteur, c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'elle est de 53 points. C'est-à-dire qu'en étant B Corp, on peut considérer qu'on est 60% plus positif que notre marché, que notre secteur. Et donc, c'est ça qui nous intéresse chez Fago, c'est être toujours meilleur que le secteur, c'est-à-dire émettre toujours moins de CO2, être toujours meilleur sur la partie sociale et environnementale. C'est ça qu'on vient chercher avec B Corp. Je pense qu'il y a un point aussi l'année dernière qui a beaucoup changé chez Fago, c'est qu'on a fait partie de la première convention des entreprises pour le climat, donc la CEC. Et tous ensemble, on était 150 entreprises de plein de secteurs et de plein de villes différentes. On a travaillé pour faire basculer nos modèles vers un modèle plus régénératif. Et je crois que ça, c'est ce qui est clé, c'est qu'on voudrait passer d'une économie carbone à un modèle régénératif. Et grâce à cette convention, on a compris, nous, dans notre modèle, comment changer concrètement en 3 étapes, 2024, 2028, 2030. Parce qu'on s'est mobilisés tous ensemble avec d'autres entreprises de secteurs différents, Nature et Découverte, Mustela, le groupe SOS. Et en fait, on s'aperçoit que seul, on n'y arrive pas beaucoup, mais que c'est vraiment ensemble qu'on peut avouer nos faiblesses. Ça fait du bien de se confier aussi avec les autres. Et que c'est ensemble qu'on peut construire finalement le modèle de demain.
Oui, parce qu'on va comprendre aussi à travers votre parcours, hein, Nicolas Rohr, et celui de votre entreprise, qu'il y a encore un chemin à tracer et qu'il y a encore des améliorations, bien sûr, mais il y a cette volonté vertueuse à la base. Et il faut préciser que vous êtes aussi audité tous les 2 ans, donc il y a une pression avec ce label également. Et je donne comme petite précision pour les auditeurs que la CEC, c'est donc cette... Convention des entrepreneurs pour le climat, qui s'est montée un an après la CCC, la Convention citoyenne pour le climat, et sur le même modèle, et qui justement rassemble 150 entreprises, chefs d'entreprise, qui ont besoin de comprendre un petit peu et voire de faire évoluer leur système. Audrey Millet, les labels, Est-ce que ça garantit une qualité, un respect de l'environnement? Il y a label et label, on sent bien que c'est quand même un univers, ce secteur de la mode, où le greenwashing a aussi toute sa place. Voilà. Qu'est-ce que ça représente, ces labels?
C'est très compliqué pour les consommateurs de comprendre tous ces labels. Et souvent, vous savez, ce sont des acronymes. Alors BCI, on dit « Ah, bah, ça doit être bien ». Pourquoi pas? Mais ça veut pas dire, par exemple, que ce coton-là sera coloré sans produits toxiques. Donc là, il faudra regarder le label Ecotex. Mais si vous avez Ecotex, vous n'avez pas spécialement BCI. Ensuite, il y a GOTS. Alors GOTS, c'est un label qui indique que le vêtement est fait au minimum avec des matières, au minimum 75% bio. On a également Fairtrade de Max Havelaar. Alors on peut reprocher à ce label, par exemple, de ne pas interdire les pesticides, mais seulement les OGM. Et à la fois, c'est un label qui respecte les conventions de l'Organisation internationale du travail. Je pense que c'est essentiel. Vraiment d'élargir cette notion d'environnement et les droits humains. Les droits humains sont tout à fait essentiels dans ces labels.
Et Bicorp ?
Le problème, en fait, de ces labels, c'est qu'on ne peut pas demander aux consommateurs d'aller en magasin et de voir ces 50 petits cartons sur les vêtements et de choisir. Il ne va pas passer sa nuit.
Et de s'y retrouver.
Voilà, et de s'y retrouver. Donc, à un moment, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin pour obliger les marques, les enseignes, à produire des vêtements nickel. Sur le plan environnemental, nickel, avec nuance, hein, on respire, donc on pollue. Hein, mais également sur les droits humains.
Alors, un monde de la mode dénoncé donc pour être un scandale environnemental. Et puis aussi la question des matières. Basculons justement dans cet univers. Des matières posent souvent plus de problèmes que d'autres.
4 euros le jean, c'est une blague. 12 euros, j'en prends 12.
Ces tarifs écrasés, de nombreuses enseignes les proposent. Zara, H&M, Primark et bien d'autres. Pour arriver à ces prix, beaucoup d'entre elles utilisent l'un des tissus les moins chers du marché, le coton. À 6500 km de la France, l'Inde est le premier producteur mondial de ce coton bon marché que les marques achètent. Pour augmenter les rendements, il est la plupart du temps cultivé à grand renfort de pesticides, comme ici, dans le Punjab.
N'approche pas le bidon près de toi. C'est du poison.
À l'image des milliers d'agriculteurs de la région, ce père de famille répand un mélange d'insecticides très dangereux pour la santé. Dans son réservoir, il y a notamment de l'éthion, que l'Union européenne a interdit en 2002, un produit qui serait très toxique pour le foie. Malgré ça, il n'a aucune protection, tout comme son fils de 7 ans, qui travaille avec lui.
Bien sûr, j'ai peur, mais on est obligé de prendre des risques. Que voulez-vous qu'on fasse d'autre? Les masques et les gants coûtent cher, et nous n'avons pas les moyens d'en acheter.
Pourtant, son petit garçon est déjà gravement intoxiqué par les pesticides. Il a une maladie grave du foie qui nécessiterait une transplantation. Mais l'opération qui coûte 37 000 euros est inaccessible pour la famille.
Nous savons tous comment ça va se terminer. On ne peut pas le sauver.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Du documentaire La face cachée du coton et qui a été diffusé le 9 février 2018. Coton, matière exigeante, gourmande en eau et en produits chimiques et on voit effectivement les conséquences. On entendait ce témoignage, Audrey Millet, et ce produit notamment qui était mentionné.
Je vous emmène dans la région du Punjab. Voilà, allons-y. Et on va se retrouver dans les champs de coton avec les petits villages à côté. Ces champs de coton sont dressés, cultivés aux pesticides. Les enfants sont malades. À 3 ans, ils ont besoin d'une greffe de rein. Bien entendu, il n'y a pas de sécurité sociale au Punjab. Et donc le père, c'est ce que j'explique dans le livre, nous répond « Vous savez très bien ce qui va se passer pour mon fils, ce qui va lui arriver. » Donc on a toute une tripotée de cancers. On peut également parler du chlore qui, selon les seuils d'utilisation, augmente de 30% le cancer du poumon, tout simplement. Les dermatites, bien entendu. Et de très très grosses questions se posent également sur la fertilité. C'est-à-dire qu'en fait, cette petite peau vous avez au niveau du pubis ou du pénis, est très très fine. Et dans vos culottes, vous pouvez avoir du plomb, de l'arsenic, du mercure. On a découvert dans des vêtements 200 fois plus de plomb qu'autorisé dans les seuils européens.
Quand on voit des produits avec marqué coton bio, Est-ce que le consommateur peut se dire, là c'est bon, je fais un geste pour la planète, pour aussi les personnes qui travaillent dans ces champs-là, ou il faut se méfier là encore, Bérangère?
Alors, souvent les labels bio ne comprennent pas du 100% de coton. À la limite, je crois que c'est Nature Textile qui a un des plus gros scores avec 95%, mais tous les autres sont effectivement en dessous. Alors, je voulais reprendre sur le coton BCI, qui justement est en train de complètement tuer la filière bio. Parce que le fonctionnement, c'est de faire des formations aux agriculteurs, ensuite de leur demander de s'auto-évaluer par rapport aux consignes qui ont été données. Alors les consignes, c'est moins d'eau, moins de produits chimiques et pas de travail d'enfants et des protections. Mais moi, j'ai déjà vu des reportages où ils avaient un simple mouchoir sur le visage alors que les épandages étaient tout autour en train d'être effectués. Et c'est quand même un label qui autorise quand même les produits chimiques de synthèse et les OGM. En plus, une usine qui a un label BCI peut avoir son label qui va recouvrir l'étendue de sa production, alors qu'en fait, elle a ce label à partir du moment où elle a juste une petite portion de coton biologique. Donc à partir du moment où elle a sa petite portion de coton biologique, elle peut dire que tout le coton qui est produit, même s'il ne l'est pas, est également labellisé. Et c'est un énorme problème pour les agriculteurs bio en ce moment, parce qu'ils préfèrent se tourner vers cette solution qui est beaucoup plus simple pour eux.
Alors les pays où sont produits plus massivement ces matières, ce sont lesquels? Chine, Inde, États-Unis, Pakistan, Brésil, ça c'est pour le coton.
Bangladesh, c'est des pays très démocratiques.
Le premier producteur c'est l'Inde, le deuxième ça doit être la Chine, je crois bien, qui s'est fait doubler il n'y a pas très longtemps. Et effectivement, en Inde, on a un énorme stress hydrique. Là, à peine la moitié de la population a accès à l'eau. Il paraît même que certaines villes sont livrées par camion-citerne d'eau. Et à côté de ça, on arrose les champs.
On a une pollution aussi des rivières en Chine de 80%. C'est-à-dire 80% de l'eau en Chine n'est pas potable. Bon, je vous laisse imaginer les conséquences sur la santé. L'industrie de la mode a comme impact de polluer 20% des eaux mondiales. Ça fait beaucoup, quand même.
Et alors Audrey Millet, justement, les fibres synthétiques, elles, alors polyester, polyamide, polyuréthane, élastane, acrylique, etc., elles représentent plus de la moitié des fibres produites dans le monde. Et on sait que ces polymères sont obtenus à partir du pétrole brut, donc là on repart sur les énergies fossiles, et nécessitent aussi des constituants chimiques pour pouvoir être fabriqués. Alors on passe sur les colorants, les teintures. C'est pire ou c'est une autre catégorie dans le pire?
Oui, c'est pire. Alors, s'il y a quelque chose à arrêter de suite, là, on va immédiatement arrêter tous les polys, tous les mères, tous les stans, vous voyez. Tout ce qui semble un petit peu bizarre, comme vous disiez le nom, on va stopper. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces fibres synthétiques rejettent 35% des microplastiques qui sont dans les océans. Bon, vous savez que le petit poisson boit l'eau de l'océan, que le petit poisson va venir dans votre assiette, et que donc vous allez manger des microplastiques. Non, en fait, c'est vraiment ça, il faut le stopper. Voilà, s'il y a des solutions comme ça, là, il faut véritablement réagir. Et puis en fait, ces vêtements-là ne sont pas réparables. C'est-à-dire que ça ne sert franchement à rien de réparer un vêtement en pétrole. Alors c'est ça le problème, c'est vous le réparez même pas. Vous l'avez acheté 5 euros. Bon, finalement, je vais le mettre à la poubelle et puis je vais m'en acheter un autre. Non, un vêtement en coton quand même, ça se répare beaucoup mieux. La laine, bien entendu, également. Et là, vous remettez quand même un peu d'amour dans le vêtement. Et vous allez raconter son histoire. C'est-à-dire qu'ensuite, lorsque vous allez faire attention, pas ce petit vêtement-là que vous avez acheté sur Internet, sur l'application, vers 11h30 du soir. C'est très bizarre quand même, ces choses-là. Lorsque vous choisissez votre vêtement, il a une histoire, il a un moment, il a véritablement une vie. Donc, vous le respectez.
Après, on peut dire que pour se vêtir, finalement, ça nous met aussi face à une société à de multiples vitesses. Et qu'aujourd'hui, des foyers n'ont pas les moyens d'aller acheter un meilleur tissu ou des fabrications qui seraient moins polluantes ou moins problématiques. Et là, on est vraiment face à une inégalité sociale totale. Pour l'instant, il n'y a pas de solution par rapport à ça.
Par la revente.
Bérangère Weiss, la revente.
Oui, la seconde main. Alors moi, je suis ultra pour la seconde main. Enfin, vraiment, le vêtement a une histoire, puis s'il est encore viable, pourquoi pas? Puis ça vous permet souvent, justement, de pouvoir acquérir des vêtements que vous ne pouvez pas, en fait, vous payer plein pot.
Nicolas Rohr, ces questions-là, elles sont intéressantes. Hein. Déjà, par rapport à Fago, première peut-être question, c'est comment est-ce que vous parvenez à sélectionner vos matières et se fournir autrement? Est-ce que c'est facile aujourd'hui ou alors ça pose encore problème quand même pour les entreprises?
Alors chez Fago, notre prisme principal, hein, c'est notre enjeu carbone. Comment émettre le moins de CO2 possible? Et on travaille avec l'ADEME, l'organisme d'État français, qui régit un peu ces tables de CO2. On a constaté que les matières recyclées allaient être la solution la plus radicale, la plus drastique pour émettre le moins de CO2 possible. Je prends l'exemple de ce fameux coton dont on parle. Un kilo de coton va émettre 16 kg d'équivalent CO2. Le même coton recyclé n'en émettra plus que 1,4. Donc chez Fago, on travaille d'arrache-pied depuis des années pour améliorer la manière de recycler les matières premières et de les incorporer dans nos produits avec, et c'est ça qui est important, c'est en garantissant la même qualité durable que si ce vêtement avait été fabriqué avec des matières neuves. Et donc, aujourd'hui, par exemple, dans le t-shirt, on peut parler du t-shirt qui est la pièce, je pense, la plus vendue au monde, on arrive aujourd'hui à mettre 30% de coton recyclé dans ce t-shirt, tout en garantissant la même qualité. Il y a 5 ans, on n'était qu'à 20%. Et on progresse chaque année en réussissant à mettre un peu plus de matière recyclée. Donc ça, c'est notre premier axe. Et je rebondis sur ce que vous avez dit précédemment, qui pour moi est la deuxième clé pour faire mieux, c'est favoriser la seconde main. Alors ça, c'est la base, évidemment. Et du coup, dans les 40 boutiques Fago, nous avons des corners de seconde main très visibles. Sur chaque vêtement de seconde main, il y a un flag fluo qui se voit même plus que les vêtements neufs, qui sont, eux, avec des matières recyclées. Parce qu'on veut la favoriser au maximum. Et enfin, il y a quelque chose qui me paraît aussi essentiel, c'est la réparation. Réparer. Et surtout, je pense pour nous les hommes, un bouton cassé sur une chemise, on la met en rebut dans notre placard et elle fait partie de ces 68% de nos vêtements que l'on ne met pas. Et bien du coup, on organise des ateliers de réparation. C'est très concret, hein. Apprendre à recoudre ou en tout cas le faire faire. Redonner un peu de boulot à ces couturiers, ces couturières qui peuvent réparer et donner un second souffle aux vêtements. Et en fait, on s'aperçoit que beaucoup de choses sont réparables.
Et par rapport aux fibres synthétiques, est-ce que c'est encore impossible pour l'instant de s'en passer?
Alors, c'est pas impossible. Il y a des effets de mode. Beaucoup, on voit en ce moment, par exemple, que la polaire est très à la mode, la polaire Patagonia, par exemple. Eh bien, du coup, pour bien la faire, nous, on utilise du polyester recyclé, qui est recyclé à partir de bouteilles de plastique et de déchets de la Méditerranée. Mais effectivement, il y a quand même, et ça, c'est la limite du système, c'est que on ne maîtrise pas, du coup, les rejets de ces microplastiques. Alors, évidemment, du coup, il faudrait qu'on stoppe assez rapidement l'utilisation de ces microplastiques parce qu'on sait évidemment tous les dommages que ça fait sur l'environnement qui entraîne du coup une cascade négative. On se dit qu'il faut travailler aussi main dans la main entre les fabricants et les industriels parce que je ne comprends pas que dans nos machines à laver, nous n'ayons pas encore de filtres microplastiques et ce qui pourrait être avant la grande transition, déjà un premier pas, c'est de dire que on utilise des produits qui émettent des microparticules. Est-ce qu'on peut pas déjà commencer à filtrer un maximum dans les machines?
Bérangère Weiss.
Alors justement, c'est prévu, a priori pour 2025, les producteurs de machines à laver devront installer un filtre interne ou externe. Mais je pense que ça va être relativement compliqué, qu'il va y avoir du bourrage de filtres, que ça va peut-être abîmer les machines. Donc je ne sais pas comment ils vont se débrouiller. Par contre, s'il y a une autre solution, alors c'est un petit peu cher effectivement, mais c'est les goopy bags. Donc ce sont des sacs avec un tissage en nylon très serré, dans lequel on peut mettre justement ces vêtements en polyester pour les laver et qui vont retenir, je crois, au moins 90% des fibres. Ça peut être une solution en attendant.
Oui, puis les vêtements s'abîment moins.
En plus. Par contre, il ne faut pas avoir trop de vêtements en polyester, parce que sinon c'est compliqué à laver, mais...
Donc on a compris hein, du recyclage et d'autres solutions. Et puis bien sûr, hein, le scandale, il est environnemental, mais on a aussi saisi qu'il était social. Ce scandale social s'ajoute au scénario.
C'est une enquête qui pourrait bien ternir l'image de plusieurs géants du textile. Uniqlo, Inditex, qui détient notamment la marque Zara, Fast Retailing et l'enseigne de chaussures Skechers. Quatre sociétés soupçonnées d'avoir commercialisé des vêtements et des chaussures fabriqués par des Ouïghours, une minorité musulmane persécutée. Depuis des années, des centaines de milliers d'entre eux seraient enfermés dans ces camps, dits de rééducation en Chine. Employés de force, comme main-d'œuvre bon marché dans des champs de coton et des usines textiles chinoises. À l'origine de cette enquête, pour recel de crimes contre l'humanité, une plainte déposée en avril dernier par deux organisations non gouvernementales soutenues par l'Institut Ouïghour d'Europe.
Quand on procède à un achat, on ne peut plus se déconnecter du fait que dans la chaîne, en bout de course, il y a les pires crimes qui sont commis.
Les associations estiment que les sociétés visées ne font pas les efforts nécessaires pour s'assurer que leurs sous-traitants ne participent pas aux persécutions des Ouïghours.
Reportage diffusé sur France Info le 2 juillet 2021. Audrey Millet, ce travail forcé dans les pays, vous en parlez dans votre livre. On peut mentionner l'Ouzbékistan, Turkménistan, Chine, avec le cas des Ouïghours turcophones.
Oui, alors l'industrie de la mode est quand même, depuis plusieurs siècles, responsable d'énormément de scandales sociaux et de l'esclavage, en fait, tout simplement. Je vais vous raconter une histoire. En 1906, on a une très grande exposition qui est organisée à Londres. Une exposition sur le sweating system, donc sur les ateliers de misère. C'est le Daily News, donc le journal qui l'organise. On a 3000 visiteurs qui viennent visiter cette exposition en 6 semaines. C'est tout à fait énorme. On est en 1906. Les gens n'ont pas été spécialement choqués par le traitement des ouvriers. Mais ils étaient très très inquiets de la santé des ouvriers qui, par exemple, auraient pu leur donner des maladies lorsqu'ils faisaient les vêtements. Donc il faut aussi appeler le consommateur. Et je aujourd'hui, alors effectivement, il y a les Ouïghours qu'il faut absolument défendre, mais il faut défendre tout le monde également, plus proche de chez nous. À 20 km de Florence, on a la ville de Prato, qui a été colonisée par les Chinois durant les années 80 et qui accueille énormément de migrants, vous savez, passés par Lampedusa et par les camps, alors pas les camps de vacances, hein, en Libye. Tous ces migrants sont des vrais professionnels de la confection. Ils font un travail extraordinaire. Ils sont payés, alors j'ai les chiffres, 25 euros par jour, pour, alors de manière illégale, hein, pour 12 heures à 14 heures de travail. Certaines fois, ils sont obligés de prendre de la kétamine, c'est-à-dire de la drogue. Normalement, il est utilisé pour les chevaux afin de tenir. Donc là, on arrive quand même à un moment, il faut se regarder en face, et le consommateur. Parce que c'est juste à côté de chez nous. Et même quand c'est loin, c'est très important. Mais s'il faut bientôt, ce sera nos enfants.
Votre livre a été récupéré par les Chinois.
Oui, ils ont. J'étais ravie. J'ai pas compris pourquoi ils ont racheté les droits de ce livre. Et c'est vrai qu'à un moment, on a reçu un message nous indiquant que les quelques pages sur les Ouïghours étaient vraiment trop orientées parce que on n'a pas été capable de faire la différence entre l'impérialisme américain et la vérité chinoise. Voyez, parce qu'on n'est pas capable.
Mais c'est donc ils ont enlevé les 4 pages.
Absolument. Ils censurent, mais ils rachètent les livres. Hein, vous inquiétez pas.
Est-ce qu'il y a une législation quand même mondiale qui existe pour pallier ces dérives humaines? Il y a l'Organisation mondiale du commerce qui fixe des directives, des lois environnementales. On commence ou à émerger ou oriente autrement le secteur, mais c'est quand même un secteur mondialisé. Avec justement à la clé ces scandales qui sont quand même relayés dans l'actualité, les médias, etc. Potentiellement, on peut se dire quelque chose va se passer quand même via une législation internationale. Non.
Alors ça bouge un petit peu au niveau de la France, au niveau de l'Europe, mais par contre au niveau international, moi, je n'ai pas entendu grand-chose. Et même sur ce qui passe, les nouvelles législations françaises et européennes continuent quand même à ne pas être très coercitives et ne pas du tout régler le problème de la fast fashion non plus.
Nicolas Rohr, est-ce que ces scandales guident vos choix de fournisseurs, d'ateliers? Parce que là aussi, vous devez aller chercher des personnes qui travaillent avec vous.
Oui, absolument. Ces scandales, et d'ailleurs, qui, quand vous les rappelez, font froid dans le dos à chaque fois. Et merci d'en parler, parce que ça permet, je pense, d'éveiller des changements. Et chez nous, ces changements, ils ont été éveillés très tôt, dès la création de Fagot. Parce qu'on a choisi, dès le début, le made out et pas le made in, vraiment dans la trace de Patagonia, qui défend un modèle unique qui est celui de la fair fashion, c'est que chacun doit s'y retrouver, du consommateur final et à tous ceux qu'on peut remonter dans la file. Parce que je pense qu'on oublie souvent qu'il y a beaucoup d'intermédiaires dans la mode. Quand on parle du coton, il y a celui qui a le champ, celui qui l'a filé, celui qui l'a transformé, celui qui va le livrer à une usine, l'usine qui va fabriquer le t-shirt. Le t-shirt va être livré par un transporteur, ensuite mis dans un entrepôt, vendu dans un magasin, par des vendeurs et ensuite mis sur le dos d'un consommateur. Et chacun doit être rémunéré de la manière la plus fair possible, donc la plus équitable possible. Et à la fin, ce qu'on veut aussi, c'est que le consommateur ait un produit abordable. Voilà, donc c'est toute cette chaîne. Et c'est pour ça que chez Fagot, on choisit nos ateliers en fonction de cette partie sociale, mais aussi en fonction de cette partie prix qui va ressortir.
Abordable et durable.
Exactement. Et sous le prisme CO2, et je me disais qu'il y avait une législation quand même qui va évoluer, c'est qu'on est en train de travailler, alors elle est sur la partie environnementale, mais c'est déjà un aspect important. Chez Fagot, nous sommes pilotes sur le projet de l'affichage environnemental, qui est un peu l'équivalent du Nutri-Score pour l'alimentaire, mais sur le textile. Et ça permettra du coup d'orienter quand même un peu le consommateur vers cette orientation CO2, et eutrophisation des eaux.
Alors Nicolas Rohr, vous fournissez dans différents pays, donc la France, Portugal, Maroc, le Vietnam et la Chine. Est-ce que pour ces pays, vous avez, notamment ceux dont on a pu parler dans l'émission, des moyens de contrôle efficaces ?
Oui, absolument. Déjà, chacune de nos usines sont auditées tous les 6 mois, c'est-à-dire toutes les par saison, et avec un audit qui est social, environnemental et économique. Donc c'est une grille que l'on a créée nous-mêmes. On audite ces usines 2 fois par mois. Nos équipes viennent dans ces usines 2 fois par an pour voir ce qui s'y passe et travailler avec les usines main dans la main. Donc ce sont nos moyens de contrôle. Et évidemment, les usines ne sont pas toujours parfaites. Mais ce qu'on cherche, nous, c'est à créer une trajectoire avec eux. Donc une trajectoire d'amélioration continue où on se note les points à améliorer. Par exemple, on a remarqué que vos signalétiques pour l'incendie et ainsi que la porte permettant de s'évacuer étaient souvent bloqués par des cartons. Du coup, amélioration continue. Dans 6 mois, il faut que ce soit amélioré, et dégagé. Si ça n'est pas le cas, on peut remettre en cause notre partenariat. Voilà. Donc, du coup, on classe ces risques par des risques mineurs, modérés et majeurs. Et lorsqu'ils sont majeurs, s'ils ne changent pas dans les 6 mois, nous arrêtons notre collaboration. Mais l'idée, c'est quand même d'emmener nos usines vers de la lumière plutôt que celles qui ne sont pas bien, de leur dire « on ne travaille plus avec vous parce qu'on veut aussi améliorer ces usines-là ».
Hello, hello, planète Terre, planète en détresse, petit homme surmené au milieu des SOS. Petit homme n'entend plus même son propre mal-être. Il court pour oublier que c'est oublié dans le paraître. Hello, hello, j'en presse les nerfs à l'enfer. Qui prône un royaume qui ressemble à l'enfer. Prêt à mourir pour défendre la cage qui a tué nos âmes et tout ce qu'elle renferme. Couleur d'usine, nous barreaux en fer. Horizon de barrière, là où le mur nous encercle. Sombre mise en scène, dire qu'ils pensèrent effacer l'ensemble de la sagesse ancienne. Aujourd'hui sort père, civilisation de vice et de panthère. Vente d'indignation venue de la planète entière. Fils de l'aberration que les siècles étranglèrent. Brise tes chaînes, sois gardien de ton frère. Incarne dignement ce que le ciel t'a offert. En plein chamboulement électrique, atmosphère Babylone s'écroule quand on agit par nous-mêmes. Alors brise tes chaînes. Hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés. Héritier du mal-être, brise tes chaînes.
Écoute le souffle de l'âme. Les foules n'ont pas raison. Troupeau et fous de drame. Ne se pose pas de questions. Ici y a tout de grave. Chante de plaie.
J'en presse sans inhibition. Qui marche dans la nuit dans l'oubli de qui ils sont. La loi du bifton a tué l'enfant. La tuper pour aduler la grande division. Les gens se détestent, malédiction. Les gens se dépêchent sans savoir où ils vont. Angoisse et stress, poisse, détresse. L'esprit carré comme une télévision. Humain qu'on délaisse. Pays riche et ses champs des CF. Légitime, on se bat, on se lève. Véridique, j'ai jeunesse, y'a plus d'une, on se rêve. Nous trahis, on se crève. En secret, on s'aime, on haït, on saigne. Si on faille, on serre, on crève. Si on cède, rien n'est facile, on sait. La vie vouée à triompher, alors brise tes chaînes. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit, tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés. Héritier du mal-être, brise tes chaînes.
C'était Jean Pressé de Kenny Arcana, et qui finissait cette chanson par Brise tes chaînes. Hein. C'est votre choix musical, Bérangère Veil, je me tourne vers vous. Et finalement, c'est vraiment ce choix aussi qui va avec ce thème, la fast fashion, c'est brisons les chaînes et ralentissons le monde.
Oublions-nous un petit peu.
C'est la suite du magazine de l'environnement sur France Culture, De cause à effet, avec comme sujet aujourd'hui la mode et ses dessous, une industrie de tous les dangers pour la planète, et avec nous toujours Audrey Millet, ancienne styliste, docteur en histoire et chercheuse à l'université d'Oslo, autrice notamment du livre Le Livre Noir de la Mode, livre paru aux éditions Les Pérégrines. Bérangère Weiss, documentaliste et autrice du livre Quand la planète n'aura plus rien à se mettre, un livre paru chez Delachaux et Niestlé, et puis Nicolas Rohr, l'un des fondateurs de la marque française de mode Fago. Thibault est toujours avec nous. Mais tout de suite, nous prenons la direction des pages planètes du journal Le Monde, notre partenaire média, et dans l'actualité qui touche à l'environnement, la journaliste correspondante du quotidien Le Monde, Anne-Françoise Hiver, est avec nous pour nous parler d'une usine qui vient d'ouvrir au nord de la Suède, à Sundsvall. Et cette usine prétend vouloir révolutionner le secteur de l'habillement en s'inspirant de l'industrie forestière pour transformer les vieux vêtements en cellulose. Bonsoir Anne-Françoise Hiver.
Bonsoir.
Vous êtes partie en reportage dans cette fameuse usine qui, en Suède, donc, peut peut-être révolutionner le secteur ?
Alors, c'est en tout cas ce qu'elle prétend. Tout a commencé en 2012 avec un coup de fil de l'entrepreneur suédois Malcolm Norlin, ancien actionnaire de plusieurs bioraffineries. Il appelle deux chercheurs de l'Institut Royal de Technologie à Stockholm, spécialistes du bois, et il les interroge. N'y aurait-il pas un moyen de produire de la cellulose à partir de vêtements usagés ? En gros, il s'agit de mettre au point une technique de recyclage chimique. À l'époque et encore aujourd'hui, le recyclage des textiles est essentiellement mécanique. Les vêtements sont broyés, puis les fibres enrichies de coton pur, avant d'être filées et tissées. Mais le résultat n'est pas toujours à la hauteur des espérances. Les fibres raccourcies perdent de leur solidité et ne peuvent être recyclées qu'un nombre limité de fois. À la différence de la technique mise au point dans les laboratoires de l'Institut Royal de Technologie, celle-ci permet de produire une fibre régénérée qui a toutes les propriétés d'une fibre vierge grâce à l'extraction de la cellulose du coton.
Concrètement, comment ça marche ?
Eh bien, pour le moment, l'usine de Sundsvall ne recycle que des vêtements composés d'au moins 95% de coton, des jeans essentiellement. Les pantalons sont broyés, réduits en confettis, puis débarrassés des boutons, fermetures éclairs et autres agréments. Ce duvet, très riche en coton, est alors transformé en pâte, un procédé breveté et soigneusement gardé secret. Décolorée, puis blanchie, celle-ci est ensuite séchée et aplatie. Ce produit final, la compagnie Renewcell, propriétaire de l'usine, l'a baptisé Circulose. Il s'agit d'une cellulose circulaire, épaisse de quelques millimètres, qui ressemble au toucher à du papier buvard, rigide, de couleur blanche. Elle est livrée sous forme de grandes feuilles aux fabricants de fibres qui n'ont plus qu'à les dissoudre à l'aide de solvants pour obtenir des fibres et produire au choix de la viscose, du modal ou du lyocell.
Et on imagine que cela intéresse les grandes marques.
Oui, absolument. Lors de l'inauguration de l'usine, le 10 novembre à Sundsvall, il y avait des représentants de la marque H&M, qui est d'ailleurs actionnaire au capital de Renewcell, mais aussi d'Indy Tex, le groupe espagnol auquel appartient Zara, ou bien de la marque suédoise Philippa Co. Toutes ont déjà produit quelques exemplaires de vêtements composés en partie de circulose. C'est le cas aussi d'ailleurs de la marque Levi's qui en a inclus dans son iconique jean 501. Et si la production commerciale vient de commencer à Sundsvall, le carnet de commandes de la compagnie est déjà plein. Les grands fabricants de fibres se sont engagés à lui racheter la totalité des 60 000 tonnes de cellulose que l'usine fabriquera la première année, avant de doubler puis de quadrupler sa production. Seul bémol, pour le moment, les vêtements usagés sont importés par bateau de Turquie et la circulose livrée aux fabricants de fibres en Asie, ce qui est un mauvais bilan carbone, même si l'électricité utilisée dans l'usine est entièrement verte. À terme, Renewcell envisage donc d'ouvrir des usines ailleurs, au plus près des fournisseurs et des clients.
Alors vous restez avec nous Anne-Françoise Hiver, je me tourne vers nos invités. Est-ce que quelqu'un veut réagir ou est-ce que vous connaissiez le principe, Audrey Millet ?
C'est une très bonne chose qu'il y ait une recherche-développement, évidemment, à ce sujet. Ce qui est ennuyeux, c'est que pour l'instant, donc c'est 95% de coton. Donc ça laisse quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de vêtements où il est impossible de les recycler. Ce qui est rassurant aussi, c'est que quand même les grandes entreprises regardent d'un bon œil tout ceci. Alors moi, je leur dirais tout simplement d'ouvrir des laboratoires de recherche et développement au sein de leur entreprise. On sera ravis d'y participer.
Nicolas Rohr, vous connaissiez le principe ?
Oui, je connaissais le principe. Alors, je salue toujours ces initiatives qui sont magnifiques parce qu'elles sont pleines d'espoir concret, quoi. C'est-à-dire que on peut commander, on peut fabriquer du coup des vêtements grâce à cette matière. Et chez nous, ce qu'on aime, c'est le concret qui est prêt à utiliser. Ce qu'on dit depuis le début, c'est que nos vêtements d'hier sont le gisement de demain. Et donc ça, je crois que tout le monde l'a compris. Mais il semble qu'il y a un problème, c'est que la filière du recyclage aujourd'hui n'est pas du tout rentable. C'est-à-dire que elle manque de subventions qui permettraient, un peu comme nos déchets domestiques sont rentables, parce que on paye dans notre taxe d'habitation, taxe foncière, PAPREC, pour qu'ils puissent recycler. Ben, dans le textile, ça n'existe pas aujourd'hui. Donc le circuit n'est pas rentable et on voit bien qu'il doit être sponsorisé, sur-sponsorisé par des H&M et des Inditex qui malheureusement n'en feront pas leur business model total. Ça sera juste une partie infime de leur collection. Alors que chez nous, chez Fago, ce que je rêve, moi, c'est que 100% de mes collections soient fabriquées avec 100% de matières recyclées. Aujourd'hui, on n'a que 30% de matières recyclées dans nos collections, ce qui est déjà une part énorme. C'est le maximum qu'on puisse faire parce que la technique a des limites. Et du coup, je voulais rappeler peut-être juste un tout petit point, c'est que ce recyclage, il doit être aujourd'hui un acte citoyen classique, c'est-à-dire qu'on devrait rapporter tous nos vêtements usagés dans des bornes de recyclage prévues à cet effet. Parce qu'aujourd'hui, chez Fago, par exemple, on collecte dans nos bornes Aiko 4 tonnes par an. Et ensuite, cette tonne, en fait, elle est envoyée dans un atelier qui va trier et ensuite recycler. Et donc, c'est le réflexe qu'on devrait tous avoir aujourd'hui. C'est déjà de se mettre en acte citoyen.
Alors, deux réactions rapides. Bérangère Veris.
Alors, moi, c'est une question. Comment fait-on pour recycler un habit qui contient à la fois du coton, du polyester et de l'élastane, comme c'est le cas de la plupart des vêtements dans le monde.
D'où le problème pour recycler, hein, c'est ça. Nicolas Rohr, vous dites ?
Non, c'est une très bonne remarque. Et du coup, c'est ce qu'on doit tous s'attacher à faire en tant que fabricant. C'est fabriquer du design to recycle. Et donc, évidemment, c'est de se dire que dès la conception, en fait, on doit intégrer les problématiques de fin de vie. Et donc, en effet, mélanger les matières est une vraie problématique. Et donc, c'est pour ça qu'on doit tous aller, effectivement, vers de la conception monomatière au maximum. Ou en tout cas, si jamais il y a des mix de matières, prévoir de pouvoir les dissoudre, par exemple, avec un solvant, ce qui va séparer les matières en deux pour pouvoir avoir le coton et je ne sais pas, ça pourrait être le polyester d'un autre côté. Mais ça, c'est un vrai boulot dès la conception.
Audrey Millet.
Oui, on peut se poser quand même la question de ce très 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 gros business du recyclage quand on met nos affaires dans des bornes, bien entendu. Très peu finissent dans des magasins de seconde main. On n'est pas capable de toutes les recycler, ça c'est sûr. Et en fait, il y a vraiment un très gros business. Si ça bouge pas non plus, c'est aussi que ces vêtements partent en bateau jusqu'au Chili, finissent dans le désert d'Atacama. Alors, il faut savoir que pour aller dans le désert d'Atacama, c'est quand même un port franc, donc où les entreprises ne payent pas de taxes. C'est un énorme business. Et alors, nos vêtements dans le désert d'Atacama, c'est tout à fait extraordinaire. Ce désert d'Atacama, c'est l'ancien cimetière de la dictature chilienne également. C'est notre fosse commune, en fait, de notre dressing. C'est sans doute notre future fosse commune à nous.
Anne-Françoise Hiver, si on comprend bien, c'est vraiment un dossier à suivre pour vous.
Hein. Ah oui, tout à fait. C'est une entreprise qui semble vraiment très intéressante. Et au début, j'avoue que j'avais un petit peu peur du greenwashing. Et en y allant, en entendant les gens qui étaient là, il y avait aussi des associations qui travaillent sur ces sujets, qui étaient présentes et qui confirmaient que c'était quand même une technologie qui pourrait avoir de l'avenir. Et évidemment, comme disent tous vos intervenants, c'est un tout petit bout et plein d'autres technologies pourraient être mises en place pour obtenir des résultats aussi positifs.
Merci Anne-Françoise Hiver.
Merci.
Et puis pour retrouver votre article, bien sûr, sur le sujet, direction notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, où vous retrouverez le lien vers lemonde.fr.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
C'est pas mal, donc. Moi, je remettrai.
Des vêtements totalement fabriqués en France. Avec une particularité, ils sont réalisés uniquement avec des tissus recyclés.
C'est du coton, on dirait de la soie. La matière disponible est largement suffisante en France. Donc ça, c'est un postulat de départ. On prend la matière quand elle existe et on la transforme sur le territoire.
Son territoire, c'est les Hauts-de-France. Sarah Bourgois va chercher ses chutes de tissu ici, à Calais, dans cette fabrique d'uniformes.
C'est le tissu gendarme, c'est ici.
C'est très beau.
Celui-là, 135 mètres.
Elle achète à un prix symbolique les invendus de cette usine, des tissus qui lui serviront de matière première.
Elle a, dans l'usine, plus de valeur, entre guillemets. Mais elle en a forcément pour nous, puisqu'elle va devenir un nouveau produit.
Pour fabriquer ses jupes, ses blousons, ses chemisiers, Sarah Bourgois fait appel à cet atelier à 10 minutes de là. Des couturières travaillent sur ses créations. Un objectif motivant pour ces femmes parfois privées d'emploi pendant longtemps.
Il y a 20-30 ans, il y avait des usines, on en avait plein. Et on s'est retrouvé que tout est délocalisé. Donc là, ça repart grâce à ces créateurs-là.
C'est très agréable de travailler avec des créateurs français, dans le Nord, avec du personnel du Nord. C'est très bien.
Ça, c'est notre dernier produit. Il vient de sortir.
Avec cette seconde collection, elle vend près de 2000 produits, des pièces uniques qui séduisent de plus en plus de clientes.
J'ai envie de consommer moins mais mieux. Et donc ça correspond parfaitement à finalement ma vision de la consommation de demain.
Reportage diffusé sur France 3 le 8 novembre 2019. Audrey Millet, c'est un secteur que vous connaissez bien, hein. C'est votre région.
Oui, oui, c'est ma région. Évidemment, on a envie de réindustrialiser. Pourquoi ? Bah, pour redévelopper les savoir-faire qu'on a perdus. C'est quand même merveilleux. Créer des emplois, évidemment, dans le respect des compétences. Alors, je vais poser deux questions sur cette réindustrialisation qui, quand même, compte. Avec quelle énergie ? Parce qu'on connaît les problèmes de l'énergie aujourd'hui. Et est-ce que vous avez envie d'aller en usine pour le SMIC ? C'est quand même pour ça aussi qu'on a délocalisé. C'est-à-dire pour ne pas continuer à se retrouver dans cette société industrielle, à la chaîne terrible qui a tué des corps et qui tue les esprits également. Donc, dans quelles conditions on veut le faire ? Si on doit le faire, on doit le faire correctement.
Alors, on n'a pas parlé du lin, du chanvre, des solutions possibles ? Il faudrait les cultiver plus massivement, finalement, en France notamment ?
On est les premiers producteurs de lin, je crois. Mais par contre, si le lin a été teinté en Chine... On perd tout intérêt dans la chose, ça, c'est sûr. Donc, effectivement, si c'était fait ici en France, ça pourrait être très intéressant.
Et un monde qui pose aussi des questions sur la question du bien-être animal, Audrey Millet.
Oui, le bien-être animal, et c'est très important parce que personne ne peut être insensible aux vidéos qu'on peut voir, à ce qu'on fait aux poussins. À un moment, il faut arrêter hein, quand même. Hein. Il y a quand même des questions. Kering a annoncé, en sortant les petits tambourins, qu'ils arrêtaient la fourrure. Alors, j'applaudis, formidable, mais ils continuent les peaux exotiques, c'est-à-dire les crocodiles, les pitons, et en réalité, la fourrure, c'est à peu près 1% de leurs gains. Bon, ça leur a pas fait trop mal, je pense. Voilà.
Nicolas Rohr, sur ces questions-là, il y avait deux thèmes pour cette fin d'émission. C'est à la fois, est-ce que des matières comme le lin, le chanvre ou d'autres finalement fibres pourraient apporter des solutions plus propres, plus durables ? Et puis aussi cette question vraiment du bien-être animal qui est important dans ce secteur de la mode.
Oui, absolument. Alors si on regarde d'un point de vue purement carbone, le chanvre va émettre 19,5 kg équivalent CO2 par kilo de matière. Donc c'est... plus que le coton. Mais alors, je parle juste d'un prisme carbone selon les données de l'ADEME. Et encore une fois, le coton recyclé, lui, émet toujours que 1,4 kg. Donc ma conviction, elle ne bouge pas trop là-dessus, c'est de dire il faut qu'on recycle l'énorme gisement des milliards de vêtements que l'on surproduit depuis des années et qu'en parallèle de ça, on en porte moins. Voilà. Donc porter des vêtements à fabriquer à partir de matières recyclées, il faut investir massivement pour réussir à mieux recycler. C'est ce formidable gisement et il faut surtout porter moins de vêtements. Donc pour moi, c'est un peu les deux clés. Et après, les matières, et vous rappeliez un peu les bassins de production proches, la fabrication en France. Et comme nous, on essaye de toujours produire pour cette fair fashion, on a fabriqué un pull, mais qui coûte quand même 135 euros, en laine recyclée et en polyamide recyclée, fabriqué à Saint-Malo dans une usine 3D Tex qui fabriquera avec c'est un robot en fait qui vient fabriquer ce pull en d'un seul tenant avec un seul fil. Donc il y a 30% de déchets en moins, c'est tous les rebuts de production, et c'est un robot qui fabrique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fatigue humaine, c'est un robot qui fabrique avec des matières recyclées, une qualité durable. Le seul hic dans tout ça, c'est que le pull coûte 135 euros. Et ça, tout le monde ne peut pas se payer ce pull-là. Mais si on commence à se dire qu'on doit acheter moins mais mieux, un seul pull plutôt que trois pulls, et bien peut-être que cette équation fonctionnera et donnera d'autres émules. En tout cas, ce test chez nous est assez gagnant parce que c'est un des modèles qu'on vend le mieux.
Et quand vous parlez des robots, c'est vrai que certains peuvent se dire aussi, Nicolas Rohr, ah oui, mais si les robots prennent la place des hommes ou du savoir-faire, qu'est-ce qui se passe ? Donc dans ce cas-là, le savoir-faire, il se retrouve à quel niveau ? Il y a quand même possibilité d'imaginer ce monde de demain avec l'humain qui reste quand même impliqué dans ce secteur ?
J'y crois complètement parce qu'il faudra des ingénieurs avec beaucoup de matière grise pour designer, créer, entretenir et faire fonctionner ces robots. Et il faudra également aussi toujours on dit qu'il est 100% robotisé, c'est pas le cas réellement parce qu'il y a quand même des couturières qui vont venir mettre l'étiquette, mettre le label, le care label, etc. Donc en fait, je pense que c'est un bon mix des choses et surtout éviter à terme un travail trop répétitif à une même personne. Je crois que l'humain s'épanouit effectivement lorsqu'il a l'artisanat, c'est-à-dire fabriquer quelque chose dans son ensemble et pas seulement avoir une seule étape. Et aujourd'hui, je pense que c'est le principal défaut de l'industrie au sens général.
Les questions environnementales et climatiques nous amènent à revoir, repenser le monde du travail, le rythme aussi des sociétés, et puis probablement la place de l'humain. Audrey Millet, c'est une réflexion en fait.
C'est une réflexion qu'il faut mener. Alors c'est très bien également qu'il y ait des machines pour quand même monter un pull en un seul fil. C'est incroyable. On se croirait dans Star Wars. Et ensuite, il faut quand même des mains, il faut respecter les compétences des gens. Donc ça va être tout un équilibre, hein, tout un équilibre qui va comme ça modeler notre avenir et peut-être nous offrir un horizon d'attente un petit peu plus positif.
Bérangère Weiss.
Alors moi j'aimerais juste rappeler que si l'on veut respecter les accords de Paris, donc limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré en 2050, il faudrait réduire notre consommation de vêtements d'au moins 3 fois. Donc, il y a du travail, alors que tout le monde ouvre sa penderie, regarde bien ce qu'il a, se rende compte qu'il en a déjà beaucoup et que c'est peut-être pas la peine de racheter, du moins, au moins aller à la fast fashion.
Donc ça, c'est une action rapide, facile, efficace, voilà. et on rappelle effectivement le recyclage, les ateliers de réparation, etc., pour des belles matières, hein, pourquoi pas, qui existent encore. Merci à tous les trois. Merci Audrey Millet, je rappelle le titre de votre livre, Le Livre Noir de la Mode, paru aux éditions Les Pérégrines, et le dernier sorti s'intitule Les Dessous du Maillot de Bain. Bérangère Weiss, votre livre Quand la planète n'aura plus rien à se mettre est paru chez Delachaux et Niestlé. Nicolas Rohr, bien sûr, les liens et documentations vous concernant Fago sont à retrouver aussi sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Téléchargement, réécoute sont à votre disposition. Bonne soirée à toutes et tous.
Moi, un jour, je serai un grand artiste. Je gagnerai même un Grammy. J'aurai des sous et tellement je serai riche. J'aurai même plein d'amis. Toujours escorté par la police. Je voyagerai jour et nuit. Mon épouse sera une grande actrice. Pourquoi rêver petit? Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Moi, mon rêve, c'est d'avoir la piscine et la villa quatre façades. 3-4 chambres et puis un grand dressing. Et le coupé 4x4. Non, mon but n'est pas d'être richissime. Juste le salaire d'un cadre. Et je finirai pas mes jours ici, dans cet appart minable. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Moi plus tard j'aurai une femme qui m'aime. Et des enfants tout plein. Tu sais bien, je suis pas très matériel. Je veux juste un petit terrain. Pas besoin d'un quartier résidentiel. Je construirai de mes mains un potager, un vélo, le soleil. Et tu sais, ça me convient. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Je sais pas où je dormirai demain. Eh ben ça devrait aller. Tu sais bien je me contente d'un rien. Moi tant que j'ai les papiers. Ce que je voudrais c'est de manger à ma faim. Tous les jours de l'année. Et puis je me demande si enfin en grand je pourrais rêver. Riez, 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 ouais ouais riez seulement. Riez, 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 ouais ouais riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement, riez.